Chapitre 6. Le grand cheval de Valentin. Dans sa félicité, Hawkhurst ne demandait qu'une chose de plus, une excuse convenable pour se séparer complètement de Paget. Il éprouvait le désir de se plonger dans les eaux du Jourdain pour en sortir purifié, en abandonnant ses vêtements sur le point le plus éloigné du fleuve. « Soyez sûr que vos péchés sauront vous retrouver, » se disait tout bas le jeune homme, « et une fois revenus, qu'ils s'attacheront à vous comme une sangsue s'ils prennent la forme d'un gaillard aussi dépourvu de principes. Je puis faire tous mes efforts pour couper court au passé, mais Paget voudra-t-il me laisser tranquille à l'avenir ? J'en doute. Le génie de cet homme se montre souvent dans la faculté qu'il possède de vivre aux dépens d'autrui. Il sait que je gagne régulièrement quelque argent, et il a déjà commencé à m'en emprunter. Lorsque j'en gagnerai plus, il éprouvera le besoin de m'en emprunter davantage, et bien qu'il me soit très doux de travailler pour Charlotte, il ne me serait nullement agréable de devenir l'esclave de mon ami Horatio. Et si je lui offrais une livre par semaine, en lui demandant de se retirer dans les profondeurs du Pays de Galles ou des Cornouailles, et de s'amender et d'y vivre en ermite repentant ? Je crois que je pourrais prendre sur moi de sacrifier une livre par semaine s'il y avait quelque espoir que Paget puisse cesser d'être Paget. Non, j'ai le malheur d'être intimement lié avec ce gentleman. Lorsqu'il surnagera, comme il dit, et gagnera de l'argent pour son propre compte, il se paiera des dîners fins et des gants à 5 shillings la paire. Mais lorsqu'il n'aura pas eu de chance, il viendra me retrouver et se lamenter à ma barbe. » Il s'interrogeait souvent sur cette irritante question du capitaine. Comment parviendrait-il à mettre son frêle esquif à l'abri des atteintes de ce pirate éhonté ? Quel prétexte pourrait-il donner pour renoncer à sa participation au logis commun et prendre ailleurs un appartement pour lui-même ? Depuis son retour, il n'avait rien pu découvrir qui fût de nature à l'inquiéter dans les procédés du capitaine. Ce gentleman paraissait toujours occupé comme courtier d'affaires, quoique d'une manière moins productive que par le passé. Chaque jour, il se rendait dans la City, d'où il revenait le soir très fatigué de corps et d'esprit. Il parlait très volontiers de ses occupations, si bien qu'aucun nouveau motif n'était venu appuyer les soupçons qui s'étaient élevés dans l'esprit de Valentin à la suite de la rencontre à Ullerton et du tour que lui avait joué le Tartuffe Goodge au sujet des lettres de Mrs. Rebecca Haygarth. Hawkhurst se détermina en conséquence à trancher hardiment le lien qui les liait. « Je suis fatigué d'être toujours aux aguets, de me méfier, » se dit-il à lui-même. « Si mon cher amour a droit à cette fortune, elle lui arrivera bien certainement, et si elle ne doit jamais lui arriver, nous saurons très bien vivre heureux sans ça. En vérité, pour ma part, je serais plus fier d'avoir épousé une femme sans dot que d'être le prince consort de l'héritière des Haygarth. Dans nos projets d'avenir, nous avons bâti pour nous une si charmante, si gaie habitation, que je me demande si nous serions disposés à l'échanger contre un palais. Ma chérie ne pourrait plus être ma femme de ménage et faire elle-même des gâteaux au citron dans sa jolie petite cuisine, si nous demeurions dans Belgrave, et comment pourrait-elle, dans le parc de Kensington, se tenir à l'une des grandes grilles en fer pour me voir monter à cheval lorsque le matin je m'en irais à mon travail ? Pour un homme aussi éperdument épris que Hawkhurst, la ville poussière que les autres estiment si haut devient chaque jour plus indifférente. Les visions du véritable amant ne se forment que derrière un bandeau qui le porte à ne voir dans le brillant minerai qu'une chose vulgaire à laquelle des esprits bas peuvent seuls accorder quelque attention. Ce fut ainsi que Hawkhurst abandonna ses soupçons à l'égard du capitaine et en vint à négliger son patron et allié aux grandes dames de celui-ci, qui envoyait à chaque instant au jeune homme de petits billets de 4 lignes dans lesquels il le suppliait de venir le voir. Les entrevues depuis quelque temps n'avaient été agréables ni pour l'un ni pour l'autre des deux associés. George ne cessait de prêcher la nécessité d'un mariage immédiat, Valentin se refusait à ne pas agir loyalement devant la générosité inattendue que l'agent de change lui avait montrée. « Générosité !» répliquait Georges. « Générosité, parbleu ! Voilà bien la meilleure chose que j'ai entendue depuis 10 ans. Si cela me faisait plaisir, je pourrais vous conter à propos de mon frère quelque chose qui vous mettrait à même d'apprécier sa générosité à sa véritable valeur. Mais cela ne me plaît pas. Si vous préférez agir contre moi et mes intérêts, vous aurez à payer le prix de votre folie. Vous pourrez vous considérer comme extrêmement chanceux si ce n'est pas un prix extrêmement élevé. Je suis prêt à supporter les conséquences de ma détermination, répondit Valentin. Miss Halliday, sans un sou, m'est tellement chère que je ne suis nullement disposé à commettre une action malhonnête pour m'assurer une partie de la fortune à laquelle elle a droit. J'ai tourné une nouvelle feuille de mon livre le jour où j'ai été certain d'être aimé, et je ne veux pas revenir aux pages anciennes. » Georges leva les épaules avec humeur. « J'ai connu un bon nombre de fous, mais je n'ai jamais rencontré un fou qui fût disposé à jouer à qui perd gagne avec 100 000 livres. » Hawkehurst dédaigna de répondre. « Soyez raisonnable, vous me demandez de faire ce que ma conscience ne me permet pas, et de plus, ce que vous me demandez me paraît complètement impossible. » Je ne puis croire un moment qu'aucune instance de ma part puisse engager Charlotte à consentir à un mariage secret après la conduite de votre frère. « Réellement non !» s'écria Georges avec une sorte de fureur. « Je reconnais bien là mon frère. Il est si droit dans tous ses actes qu'il l'emporterait dans un traité sur Lucifer en personne. Je vous le répète, vous ne savez pas à quel point il est profond, aussi profond qu'un puissant fond. » Je ne comprends pas son jeu. S'il consentait à votre mariage pour se débarrasser de Charlotte, il vous laisserait l'épouser haut la main. Mais au lieu de cela, il impose des conditions qui peuvent retarder le mariage pendant des années. Et c'est ce point qui m'intrigue. Vous feriez mieux de suivre votre chemin sans vous inquiéter de moi ou de mon mariage. C'est bien ce que je serai obligé de faire. Je ne puis laisser la fortune de Haygarth à la merci de Tom, de Dick ou de Harry, jusqu'à ce que vous arriviez à gagner 30 livres par mois en écrivassant pour des journaux. Il faudra bien que je passe un accord avec Philippe et non avec vous, et je puis dire que vous y perdrez beaucoup. Je ne le vois pas tout à fait ainsi. Peut-être, voyez-vous, ne connaissez-vous pas tout à fait mon frère. Si cet argent passe par ses mains, soyez bien sûr qu'une partie y restera attachée. Et pourquoi l'argent passerait-il par ses mains ? Parce qu'aussi longtemps que Charlotte est sous son toit, elle est jusqu'à un certain point soumise à son autorité. Et alors, je vous le dis encore, on ne peut pas calculer la profondeur de cet homme. Il vous a déjà jeté de la poudre aux yeux. Il saura si bien s'y prendre que cette pauvre fille le considérera comme l'homme du monde le plus désintéressé. Vous pourriez la prévenir. Oui, comme je vous ai prévenu. À quoi cela servirait-il ? Vous êtes disposé à avoir plus de confiance en Philippe qu'en moi, et il en sera de même jusqu'au bout. Vous rappelez-vous Palmer de Rugby, qui avait l'habitude d'aller à la messe et de recevoir les sacrements? Oui, certainement, qu'avez-vous à dire de lui? On croyait en lui, vous savez, on le considérait comme un très honnête garçon, jusqu'au jour où on a découvert qu'il avait empoisonné plusieurs de ses amis. Hawkehurst sourit, jugeant que cette remarque était bien peu en situation. Il ne pouvait deviner aucun lien entre l'empoisonneur de Rugby et l'agent de change. « C'est une affaire exceptionnelle. »« Oui, exceptionnelle, » répondit Georges négligemment. « Elle prouve seulement qu'un homme peut être doué d'une façon prodigieuse pour duper ses concitoyens. Je suis presque disposé à croire que Philippe soupçonne quelque chose au sujet de cet argent et qu'il vous prépare quelques tours de sa façon. » Dans ce cas, ce que vous auriez de mieux à faire serait de prendre l'initiative, répondit Valentin. Et Charlotte saura-t-elle que je me suis occupé de cette affaire ? Demanda-t-il, devenant tout à coup très pâle. Il songeait combien il paraîtrait vil aux yeux de Miss Halliday si elle allait penser qu'il avait connaissance de ses droits à l'héritage de John Haygarth lorsqu'il avait obtenu d'elle la douce confession de l'amour. Pourra-t-elle jamais croire que mon amour pour elle a toujours été pur et sincère ? Se demandait-il avec désespoir, pendant que Georges délibérait en silence avec lui-même. « Elle n'a pas besoin de rien savoir avant que l'affaire soit en train, » répliqua enfin Georges. « Voyez-vous, il se peut qu'il n'y ait aucune résistance de la part des avocats de la couronne. Dans ce cas, Miss Halliday entrerait en possession de ses droits après un assez long délai. Mais s'ils prétendent contester sa réclamation, ce sera une toute autre affaire. Halliday contre la reine, etc., avec une suite interminable de prétentions exagérées que l'on nous opposera. » Dans ce dernier cas, vous aurez à rappeler comme témoin toutes vos aventures à Ullerton, à Uxter's Cross. Et alors, il faudra bien que Miss Halliday soit informée. Oui, et elle pensera « Oh non, je ne crois pas qu'elle puisse me méconnaître à ce point. » Toute difficulté serait évitée si, tout tranquillement, vous vous mariez en secret. Je vous répète que c'est impossible. Ainsi soit-il, vous préférez monter le grand cheval. Prenez garde que le magnifique animal ne vous jette honteusement par terre. J'en courrai la chance. Et moi, il faut que je coure ma chance avec mon frère. Les cartes gagnantes sont toutes dans mes mains cette fois-ci. Il sera vraiment bien habile s'il gagne la partie. » Et sur ce, les deux hommes se séparèrent. Valentin s'en fut visiter un logement de garçon qu'il avait trouvé annoncé dans le Times du matin, et Georges partit pour Bayswater, où il était sûr de trouver un dîner et de bon vin.